Bonsoir et bienvenue encore, bien-aimés, dans le Seigneur, ceux de l'Europe surtout, et nous autres ici de l'Amérique du Nord. Bienvenue dans la présence de notre Dieu sur ce plateau fumeste. Nous allons commencer notre réunion de ce soir. Je vais demander à Papa Samuel de remettre ce temps entre les mains du Seigneur par une prière, s'il vous plaît.
Dieu. Seigneur, notre Dieu tout de Jésus-Christ, nous te disons merci pour les privilèges que tu nous fais de voir ce jour et surtout de voir, d'avoir aussi ce moment pour le partage de ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains et nous voulons te recommander notre modérateur, te recommander tous nos frères, toutes nos sœurs qui vont se connecter après nous, pour que nous puissions ensemble te louer, te glorifier. Mais nous voulons aussi te louer, te glorifier pour ceux qui ne seront pas avec nous à cause de divers emplois de temps, que toi tu sois avec eux là où ils sont, Seigneur. S'ils sont dans d'autres activités de l'Église, que tu les bénisses. Merci de nous bénir ensemble et de nous garder dans ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Amen. Oui, merci, pasteur Samuel de la Belgique pour la prière. Nous allons commencer, nous allons lire le passage de ce soir. Ce soir, nous allons méditer dans la lettre de Paul, toujours deuxième lettre de Paul, à son fils Timothée. Au chapitre 4, nous allons lire les 8 premiers versets. Je vais demander à notre frère, le pasteur José des États-Unis, de faire la lecture, s'il vous plaît, papa.
Merci beaucoup, ma sœur. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu dans la version français courant. Je te le demande personnellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande, non. Homme, prêche la parole de Dieu avec insistance.
Papa, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre parce qu'à un moment, ça ne sortait plus.
Oui. Ok, je reprends.
Allez-y.
Et je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts? Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant avec une patience parfaite, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Et toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous, à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci, pasteur José, pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui viennent nous rejoindre, bienvenue devant la présence de notre Dieu. Nous venons d'écouter la lecture avec notre pasteur José des États-Unis, sur, disons, dans la lettre de Timothée, de Paul à son fils dans la foi Timothée. C'est la deuxième lettre au quatrième chapitre et nous venons de lire, disons, tous les huit premiers versets. Alors, bien-aimés, nous avons vu hier, si je peux un petit peu rafraîchir notre mémoire, nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Paul a commencé par son témoignage pour dire que tu as suivi mon enseignement. Il est sûr qu'il a très bien enseigné. Il avait une bonne conduite, il avait une foi, la douceur, la charité, dans la constance. Il y avait aussi des persécutions plutôt, la souffrance. Et ce qui est très bien ici, il nous encourage, il dit, dans ces persécutions, le Seigneur l'a délivré. Et nous avons vu que l'exemple était un très bon exemple à suivre, de bien se conduire devant le Seigneur et devant, disons, dans le travail, dans son service. Et enfin, nous pouvons parler, nous avons tous prié que Dieu nous fait grâce de vivre comme Paul a vécu, Benjamin. Et la conclusion était que dans toutes ces souffrances, Dieu nous délivre. Et nous savons aussi, il y avait une nouvelle qui nous a appris au travers de cette lettre pour dire que ceux qui marchent dans la crainte de Dieu vivent des persécutions. Donc nous devons nous attendre à cela. Mais savoir que le temps est difficile et les imposteurs, disons, les méchants, ils vont continuer dans leur voie, dans leur méchanceté. Mais heureusement pour nous, nous devons garder ce que nous avons appris de l'évangile du salut, de notre salut. Et nous avons vu comment la parole que nous lisons ici, les 66 livres, ils sont inspirés, ils ont été inspirés par Dieu et utiles pour enseigner, donc convaincre, corriger et instruire à la justice. Pourquoi l'objectif? Que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Voilà l'objectif que nous devons connaître la parole de Dieu pour la mettre en pratique et pour faire de bonnes œuvres. Alors, nous continuons la lettre, bien-aimés. Et ce soir, nous avons encore la grâce d'être des invités. Et maintenant, qu'est-ce qui nous fait? C'est, disons, la parole de vie donne comme titre « Priorité à l'essentiel ». Donc, dans la vie chrétienne, il y a des choses que nous pouvons considérer accessoires, mais il y a des choses qui sont essentielles. Nous avons ce soir 8 versets seulement. Et moi, je ne veux vraiment pas entrer en détail pour dire quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un dit « Je t'en jure », donc la version de Papa José Courant qui dit « Je te demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de l'apparition de Salomon, de prêcher la parole. Donc, pour dire que c'est une demande qu'il est fait avec beaucoup de respect, beaucoup, pour dire que c'est ça l'essentiel des priorités que nous devons faire dans la vie chrétienne et tant d'autres choses. Alors, bien-aimés, je ne veux pas garder la parole. Nous avons huit bons versets qui a des bonnes leçons et les instructions, bien-aimés, tous nous sommes en mythe. Vous avez suivi tout à l'heure, c'était vraiment des bruits. Je vous rappelle qu'il faut appuyer sur l'étoile et les chiffres 2 pour demander la parole et même pour baisser. Ne vous inquiétez pas, moi je peux le faire ici, je le ferai pour vous. Et s'il y a des bruits, nous savons faire aussi l'étoile et les chiffres 6 cette fois. Et pour éviter que les bruits dérangent notre réunion. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous réfléchissons, nous parlons, intervenons, essayons de réfléchir et répondre à ces questions que nous a posées, 4 questions, je dirais. Question 3, je vais lire, bien-aimés, pour rafraîchir notre mémoire. Question 3, c'est « Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ?» Question 4, je vais toujours lire. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Question 5. Y a-t-il une promesse? Et enfin, question 6. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Papa José des États-Unis qui n'est pas en mute. Mais tous les autres, vous pouvez faire comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à vous, le peuple de Dieu, la parole. Amen.
Amen.
Oui, qui veut se jeter le premier ou la première dans l'eau pour nous édifier par ce que Dieu a mis dans son cœur.
Oui, je veux prendre le premier verset.
Oui, papa, vous avez le premier verset suivi de papa Samuel. Allez-y, papa.
Ah, ok. Papa Samuel, tu veux parler sur le premier verset?
Il a encore un mythe. J'ai dit, vous pouvez parler et lui va prendre parce que ça m'est venu après vous.
Ah, ok. Oui. L'apôtre s'adresse à son fils, comme nous savons, son fils dans la foi, avec conviction, avec assurance, il lui demande devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, pourquoi séparer? Il pouvait tout simplement s'adresser et dire que je te le demande solennellement devant Dieu. Et il continue, pourquoi Dieu, devant Dieu et devant Jésus-Christ? Je pense, il ne s'agit pas ici d'une vérité toute faite, mais je pense que il cite le deux ici comme témoin, compte tenu de l'importance de la matière, l'importance du sujet. Dieu le Père, il est au-dessus de tout. Et le Seigneur Jésus, dans la matière du salut, c'est lui qui est, je dirais, le responsable. Dieu est aussi responsable de notre salut. Mais c'est Christ qui est venu en mission, qui est mort. Et quand on voit la suite de Jésus là vient. Et cette fois-là, comme juge. Donc, Jésus-Christ, il est cité ici comme celui qui était venu sur la terre pour accomplir le travail qu'il avait de nous sauver. Et ce travail-là est resté avec les apôtres, dont Paul ici, et aussi Timothée, et je dirais tous les autres. Alors, c'est Jésus-là, cette fois-là, il va revenir en tant que juge, pas en tant qu'enfant, comme nous l'avons vu à Bethléem. Non, cette fois qu'il vient, c'est en tant que juge, et il juge tout le monde, même les vivants et aussi les morts.
Amen.
C'est pour cela qu'il cite, il sépare les deux. Ce n'est pas que il veut peut-être parler de leur égalité. Non. Si le Seigneur Jésus est cité, c'est parce que il est question de son travail, le travail qu'il a fait sur la terre. Il va revenir sur ça. Et Paul, ainsi que son fils, ils sont en train de continuer ce travail-là. Voilà pourquoi il a aussi cité notre Seigneur. Merci.
Le Seigneur, ce n'est pas pour faire l'égalité entre les pères et les fils. Non, nous avons un seul Dieu qui fonctionne avec trois personnes. Donc, c'est juste pour souligner que Jésus-Christ, quand il va revenir, c'est comme un juge. C'est pour cela qu'il va juger. C'est pour cela qu'il est en train de parler de l'apparition de son royaume dans notre texte. C'est pour dire que l'objectif de la seconde venue, c'est venir prendre les élus. Donc, alors, c'est pour cela qu'il lui dit qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que les gens soient gagnés et soient sauvés quand Jésus va revenir. Merci, papa, pour l'intervention. Je donne la parole au pasteur Samuel de la Belgique, s'il vous plaît.
Merci, maman. Je voulais revenir au verset, toujours au verset 1, comme mon frère, vous-même, vous avez dit tout à l'heure. Pour montrer que Jésus revient comme juge et comme roi. Les deux aspects. Juge, il était, comme mon frère a dit, il est venu comme sauveur, il a été ici comme sauveur, il a prêché, mais quand il va revenir, ce n'est plus pour prêcher encore, mais pour juger.
Amen.
Et puis, il revient comme roi pour régner. Alors, je vois dans ce verset qu'il y a une promesse. La promesse, c'est Jésus va revenir. Et je vois aussi qu'il y a dans ce verset un avertissement. L'avertissement, c'est le jugement. Il y aura le jugement à la fin du temps. Donc, ces deux éléments nous invitent, comme vous avez dit tout à l'heure, à nous amène au verset 2 où Paul exhorte son fils bien-aimé donc de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il y aura le jugement, parce que Jésus va revenir. Donc, en attendant le retour, Timothée, comme Paul, comme nous autres aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. Et cette parole, on nous dit que nous devons insister. Donc, je suis un peu frappé par ces successions de verbes.
Amen.
Annoncer la parole de Dieu, mais insister. Et insister d'annoncer cette parole. En quel temps? Il dit en temps, au bon moment comme dans les mauvais moments. Alors c'est dire que quand il y a des problèmes quand nous avons la joie, dans la joie, nous devons continuer à annoncer la parole de Dieu. Dans des difficultés, nous devons en croire. Nous n'avons pas le repos, en quelque sorte. Donc, notre, là où nous sommes, nous demeurons des gens qui doivent annoncer la parole de Dieu. Et puis, dans le texte, il nous dit aussi que nous devons corriger les erreurs. Et nous devons, l'annonce consiste aussi à corriger les erreurs. Et nous devons aussi faire des reproches, donc reprendre les gens. Nous ne devons pas fermer les yeux sur les mauvais comportements des gens ou bien sur des attitudes qui ne vont pas et puis nous laissons. Mais nous devons aussi encourager les gens. Donc nous avons une tâche difficile. Quelqu'un qui pense qu'il connaît comment le corriger. Mais nous devons toujours faire des reproches aussi à ceux qui font des erreurs ou bien ceux qui font du mal. Mais je suis frappé par le fait qu'il nous dit que nous devons le faire avec patience. Le mot patience m'arrête quand même énormément dans ce verset-là. Succession de verbes, mais aussi le faire avec patience. C'est là que nous devons peut-être nous poser des questions devant des gens qui sont hérétiques et puis ceux qui font des bêtises, mais on nous demande d'avoir de la patience. Donc c'est la qualité, je vois ici, c'est un exemple à suivre aussi. Comme Paul lui-même s'il le dit à Timothée, c'est parce qu'il avait été aussi patient envers d'autres personnes. Que moi, je dois aussi avoir de la patience envers les autres. Merci.
Merci, papa, pour votre intervention. Bien-aimé, je veux ajouter seulement la lecture en français, parole courante de ce deuxième verset. Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal. Encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve plutôt, en toutes circonstances, d'une patience inlassable. Donc, ça, c'est vraiment les conseils qu'il nous donne. Et moi, ça me touche beaucoup qu'on dit qu'on accueille ou pas, on bien accueille ou pas, mais prêchons la parole. Corrigeons les erreurs, réfutez les erreurs. S'il faut punir, donc, censurer le mal, donc, c'est pas n'importe quoi, mais le mal, quand il y a le mal, on dit ça, ce n'est pas bon. Et encourage aussi. Donc, vraiment, ça, c'est ce que Dieu nous aide vraiment à agir selon la parole. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est on prêche quand on est déçu ou on parle mal, on ne veut plus aller. Non, je me décourage parce qu'on m'a fait ceci, cela. Donc, prêchons la parole, insistons. Donc, pour dire que ça, c'est le travail, ça, c'est l'essentiel, ce qui nous est demandé en tant que fils et filles du royaume. Amen.
Amen.
Vous pouvez nous prendre le verset 3, s'il vous plaît? Nous sommes au verset
3. Oui, je peux le prendre.
Allez-y, papa.
Une partie. L'idée qui suit, c'est pour prolonger l'idée qu'il a déjà commencé. Le troisième verset, c'est pour justifier pourquoi il doit insister dans son enseignement, pourquoi doit-il le persuader, ainsi de suite. Parce que, au verset 3, le temps viendra, les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. C'est très important. Les temps viendront, et nous pouvons dire que le temps est déjà là. Oui, où les gens ne veulent plus écouter le véritable enseignement. Oui, le véritable enseignement n'est pas vraiment apprécié. Mais ils aiment donc suivre leurs propres désirs. C'est que son cœur, le cœur de ceux qui vivent avec nous, sont sur les choses du monde. C'est ce qui les intéresse. C'est ce qui les intéresse. Et ils veulent faire cela. C'est que leur cœur aime, ils continuent à le faire. Et il y a aussi la présence de ces enseignants qui favorisent ce qu'ils désirent faire. Oui. Alors, comme ça, le véritable enseignement n'a pas d'auditoire. C'est que nous avons des frères et des sœurs qui ont leurs priorités. Et ils veulent passer le temps à ces priorités. Et d'autres enseignants, connaissant ces priorités-là, ils enseignent. Et ce que nous voulons atteindre sont attirés par ces nouveaux enseignants, les choses ne marchent pas. Clairement, c'est quoi? Prenons le cas de l'homosexualité.
Merci.
Un exemple, tout simplement. Les gens veulent que la sexualité soit faite librement. N'importe quoi et n'importe où, tu es libre. C'est ton choix. C'est ton choix. Tu choisis. Alors, dans l'Église, il y en a qui appuient cela. Oh non, respectons ces gens-là. Oui, respectons-le. Ce sont les hommes et les femmes comme nous. Ils ont choisi, donc nous respectons. Voilà. À ce moment-là, ceux qui aiment trouvent que ce groupe d'enseignants est favorable à leurs désirs. Tandis que ceux qui disent la vérité que non, ça, Dieu ne veut pas, non, on tourne le dos contre ces gens-là. Voilà, bien aimé, c'est vraiment très délicat pour la vie que nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin vraiment de l'aide du Seigneur pour que nous fassions notre travail selon la volonté du Seigneur. Merci.
Merci, papa, pour l'intervention. Les temps que nous vivons sont durs. Cette parole est en actualité. Nous voyons comment les gens ne supportent pas la saine doctrine. Les gens veulent qu'on leur enseigne, par exemple, la prospérité. C'est pas mauvais, mais comment la prospérité va arriver? Ils peuvent utiliser n'importe quelle façon de prêcher pour que les gens soient contents d'entendre ce qu'ils entendent. Oreilles, même les sujets que vous avez parlé de l'homosexualité, par exemple, l'homosexualité. Donc, et tout autre enseignement, les divorces, Dieu. On se marie même avec des bêtes, on trouve ça. Donc, on prêche que chacun est libre au nom de la liberté. On va faire n'importe quoi. Et les gens sont, ils sont des églises pareilles, ils sont nombreux. Vous voyez des milliers de personnes qui s'accourent, qui veulent des choses comme ça. Et là, on prêche la vraie parole. Les gens ne veulent pas, surtout la sanctification. C'est un sujet que les gens n'aiment pas tellement. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Nous vivons ces temps-là, mais nous, nous devons prêcher la parole, comme nous dit les Écritures. Nous sommes, merci, papa, pour l'intervention. Nous sommes au verset 5. Papa Samuel, vous avez la parole. Vous allez prendre le verset 5 pour qu'on avance, s'il vous plaît.
D'accord. Mais, mais papa n'a pas terminé le verset 4.
Il y a une idée qui n'a pas été relevée.
Oui, l'idée du verset 4, on voit que les gens fermeront leurs oreilles à la vérité. Et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses.
Ouais.
C'est comme mon frère vient de dire tout à l'heure, il y a même des églises aujourd'hui qui acceptent cela. Donc, et puis on dit que c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Donc Dieu est amour, il faut vraiment accepter cela, le comportement. Il ne faut pas dire que c'est une déviation. Là, ils vous disent que vous êtes antéchrist. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Quand vous vous dites que non, ça c'est une perversion, ou bien vous dites que c'est un péché, on dit non. Ils ferment les oreilles à la vérité, à la vérité, mais ils les ouvrent pour écouter des faussetés. Alors le verset 5, je suis frappé par l'aspect, l'invitation de Paul à Timothée. Mais toi, après avoir énuméré ce qui précède pour montrer que les gens vont suivre de fausses histoires, ils seront prêts à écouter ce qui n'est pas vrai, mais il dit, il s'adresse maintenant à son fils pour dire, mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Donc voilà un peu les éléments là qui montrent que Paul dit, bon, voilà, ces gens-là vont suivre tout ce que nous venons d'énumérer ici. Mais il dit, mais toi, tu dois faire l'exception. En quelque sorte, c'est-à-dire que toi, tu dois être une exception. Ne le suis pas. Ne fais pas comme eux. Et sois un parfait serviteur de Dieu. Alors c'est cela, je dis, c'est cela à être comme Timothée. Donc Timothée ici, c'est un exemple pour nous, un modèle pour nous. Comme un modèle aussi pour nous, mais ici c'est, il demande à Timothée d'être le modèle par rapport à la société qui est corrompue, à ceux qui suivent des voies détournées. Mais il lui dit, toi, sois raisonnable en toutes choses. C'est qu'il ne doit pas être comme un mouton de Panurge qui se jette dans l'eau parce qu'il a vu l'autre mouton se jeter dans l'eau. Mais il doit se retenir, il doit réfléchir, il doit voir quel est le chemin que je dois suivre. Et le chemin, c'est de suivre la vérité, comme il a dit tout à l'heure, et nous avons vu au-dessus. Il annonce la bonne nouvelle, qu'il ne suive pas des histoires que les autres, des fables que les autres peuvent raconter. Mais qu'il reste fidèle au Seigneur. C'est ça, être raisonnable, au lieu d'être insensé. Et il montre que supporte la souffrance, parce que même aujourd'hui, parce que c'est un sujet d'actualité, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand vous vous dites que ça c'est mauvais, les autres se moquent de vous. Ils disent que c'est pas tout. Ils disent même que toi, c'est quelle théologie là? Quelle théologie que tu as faite? Toi, tu es vraiment Ils disent, tu vas te convertir un jour. Vous voyez un peu jusqu'où ça va, parce que c'est une actualité que nous vivons dans les églises aujourd'hui.
Mm.
Et l'apôtre dit, travaille à nous. Nous avons vu au début, là-bas, au verset 1, que Jésus va revenir et qu'il viendra comme juge. Mais aujourd'hui, on dit non, nous irons tous au paradis. Il y a même des livres qui sortent aujourd'hui comme ça, et qui parlent de ce que vous pouvez considérer comme éminent, comme on appelle aujourd'hui dans ce monde, éminent théologien, mais qui disent tous nous irons au paradis. Voilà les enseignements qu'on donne aujourd'hui. Alors, nous venons de voir que Jésus viendra, il viendra juger le monde. Mais dans tout ça, ce que nous devons rester toujours unis au Seigneur et rechercher sa volonté, son aide, pour que nous puissions continuer à l'aimer et à travailler pour lui. Merci.
Merci, papa. Nous devons travailler à la propagation de l'Évangile et nous devons nous donner complètement au ministère et faire le travail fidèlement, cette tâche jusqu'à la fin. Merci pour cette intervention. Nous sommes au verset 6. Nous avons commencé, je peux dire, cette partie, c'est une des dernières paroles de l'apôtre Paul. Qui peut nous prendre le verset 6 ou 7, les deux à la fois, mais parler très brièvement puisqu'on n'a plus assez de temps?
Moi, je vais prendre le sixième.
Allez-y, papa.
Oui. Paul, il est conscient que il est à la fin de son ministère ou bien à la fin de sa vie. Il dit, quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Oui, donc il est conscient, il est sûr que il ne va pas continuer beaucoup plus longtemps à cause de l'âge aussi, à cause de souffrances et tout ça. Alors c'est pour cela il enseigne son enfant à être fort, parce que lui-même il voit qu'il termine son ministère. Donc il est tranquille. Il est tranquille parce que il sait que, comme nous verrons, que quelque chose de bon l'attend. Oui. Quelque chose de bon l'attend. Donc il est conscient que son service est sur le point de se terminer. Et il est conscient, il est tranquille, il encourage son enfant à bien travailler. Merci.
Merci pour l'intervention. Ça, c'est un très bon exemple à suivre. Il dit le moment du grand départ approche. Regarde comment il se considère la mort pour lui. Le grand départ. Moi, j'ai toujours appelé ça le retour au bercail. Et bien aimé, il continue à dire, j'ai combattu jusqu'au bout. Là, c'est le verset 7. Le bon combat, j'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. Ouh! Bien-aimé, ça c'est très profond. Quand quelqu'un est conscient, il a combattu le bon combat et il a achevé sa course. Et quand il parle là, il est dans des difficultés, il est dans la prison. Et les souffrances pour lui, ce n'est pas une occasion de commencer à murmurer. Oh mon Dieu, nous sommes en train de traverser des situations difficiles. Mais lui trouve que j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, moi c'est comme une prière que le Seigneur nous fasse grâce. Que ce soit au milieu de persécutions, de tribulations, que nous prêchons la parole, que nous continuons à servir Dieu. Et ça aille mieux au mal que nous continuons. Et nous saurons parler comme notre frère qui a dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. Vraiment, nous fasse grâce qu'on renie par la foi. Il peut nous prendre bien aimé les versets 8. Qu'est-ce qu'il y a encore de... Quand il termine, qu'est-ce qui lui attend? Qu'est-ce qui nous attend? Ceux qui travaillent, qui ont combattu, qui ont combattu le bon combat, qu'est-ce qui les attend à la fin du temps de leur vie? Il y a quelqu'un qui peut nous prendre ce verset, s'il vous plaît?
Oui, le verset 8, mais c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit pour encourager son fils Timothée à travailler sans relâche, à ne pas suivre les autres qui ont d'autres enseignements. Et comme il a dit au verset 6, que sa vie sera offerte à Dieu comme un sacrifice. Alors ici, il dit « Et maintenant ?» Donc, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Donc, on voit ici que Paul s'attend à recevoir un prix, il appelle le prix de la victoire, parce qu'il a bien combattu, il a achevé la course, il a gardé la foi. Donc, il entre dans la gloire et il a le prix de la victoire. Donc, c'est ce prix qu'il appelle aussi, il dit que donc, c'est Jésus qui lui remettra ce prix. Comme nous avons vu au verset 1, que Jésus viendra comme juge. Mais lui, il lui remettra ses prix. C'est la récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Donc on voit que Paul attend, n'est-ce pas, une récompense. Et ce qui est intéressant aussi dans le texte, c'est que il dit, c'est pas seulement moi qui aurai cette récompense, mais aussi à toi. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux, donc plusieurs donc personnes, dont vous et moi, Timothée et nous recevrons aussi le prix. Si nous combattons le bon combat, si nous gardons la foi. Parce que le prix est réservé à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Donc, le moment où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Donc, nous serons récompensés. Donc, on voit ici qu'il y a une promesse aussi, une promesse qui nous est faite aussi dans le texte. Voilà ce que je pouvais dire, frères et sœurs. Merci.
Merci beaucoup, papa, pour cette intervention. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Et il ne me reste plus qu'à les recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Bien-aimé, quelle joie! Il y a une couronne. Je vais donner la parole à notre sœur Charlotte. Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Merci. En tout cas, je voulais quand même dire un petit mot, juste une ou deux minutes.
Oui, allez-y.
Ce verset 8 a vraiment réjoui mon cœur.
Alléluia.
Je vois que nous avons la promesse de Dieu. C'est pas pour rien que nous suivons ce Dieu-là.
Amen.
Et ici, il nous le dit ouvertement que désormais la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est pour l'apôtre Paul. Mais le Seigneur, le juge, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, comme nous autres. Ce qui a réjoui mon cœur, mes bien-aimés.
Amen, amen.
C'est ça que je voulais ajouter.
Merci, ma sœur. Nos cœurs aussi se sont réjouis de voir qu'il y a une couronne qui nous attend.
Amen.
Alors, bien-aimés, nous avons terminé notre méditation. J'aimerais demander à la sœur Charlotte, est-ce que vous avez votre lecteur avec vous?
Oui, oui, ma sœur.
Vous pouvez nous faire la lecture de commentaires et puis nous allons chanter à la fin « Garde-moi, Seigneur fidèle, j'ai un prix à remporter et de vie. » Ma sœur, allez-y.
De Timothée 4, versets 1 à 8. Prêchez le vrai évangile. Cette portion a le ton de dernière volonté d'un vieillard qui s'en va. Prêche la parole. En prenant Dieu et Jésus-Christ à témoin, Paul adresse à Timothée une recommandation insistante sur la proclamation de l'évangile. Jésus-Christ, avant son ascension, avait également fait aux disciples la même recommandation. Il se révèle que l'annonce inlassable de l'évangile, quelle qu'elle soit, les temps et les circonstances, est la chose la plus essentielle qui doit occuper le chrétien. En faisant votre propre auto-évaluation, pouvez-vous dire que vous remplissez convenablement cette mission? Qu'allez-vous faire désormais? Ô et vrai évangile, le temps annoncé par Paul s'accomplit déjà. Contrairement à l'évangile de vérité, les hommes préfèrent aujourd'hui les messages enflammés, complaisants, habillement distillé selon les vues humaines. On est à l'ère de l'évangile des promesses matérielles, l'évangile de la prospérité axé sur les intérêts personnels et égoïstes. Dans un tel contexte, celui qui veut rester attaché à l'évangile de la mort et de la résurrection de Christ s'astreint à toutes les exigences d'une vie de service intégrale. De quel évangile êtes-vous partisan? Demeurez dans la foi jusqu'au bout, alors qu'il voit se grainer les derniers jours de sa vie sur terre. Paul fait le bilan et affirme « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Pourriez-vous parler comme lui, maintenant et ou dans votre vieillesse? Les récompenses du Seigneur attendent tous les chrétiens victorieux. Prière. Seigneur, donne-moi d'être attaché au vrai évangile jusqu'à la mort. Amen.
Amen. Ma sœur Charlotte, pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, là, ce sont les commentaires faits par notre frère Azane Akoman de la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que c'est le nom d'un frère, ou je ne sais pas si c'est une sœur, qu'elle me pardonne, que si elle peut. Donc, bien-aimés, nous avons terminé la méditation ce soir. Et nous allons chanter. Nous allons chanter « Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. » 1, 2, avant de terminer. « Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur,
Je suis fidèle à toi, j'ai pu remporter des victoires à gagner.
Oh
Seigneur,
garde-moi
fidèle
à
toi.
Encore, suivant les rythmes de la modératrice. Une, deux. Garde-moi,
oh
Seigneur, fidèle
à toi.
Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à emporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Papa José des États-Unis, vous pouvez prier pour clôturer ce moment. Que Dieu nous fasse grâce, que nous prêchons la vraie évangile, que nous continuions à demeurer et que nous restons fidèles. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend en fin de la fin de notre vie. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous pouvons faire des déclarations comme notre frère Paul l'a fait avant son retour au bercail.
Notre Seigneur, notre Dieu, nous te prions avec beaucoup de reconnaissance, puisque tu nous as montré que malgré toutes sortes de difficultés que nous pouvons rencontrer, il y a une couronne qui nous attend. Seigneur, comme nous venons de chanter, nous te demandons de nous aider à rester fidèles à toi. Parce que le chemin qui est devant nous est un chemin plein d'embûches. Mais nous pouvons arriver jusqu'au bout lorsque toi-même tu nous remplis de ton esprit. Notre volonté veut que nous te soyons fidèles comme Paul l'a été. Et comme Paul dit que tu lui as réservé une couronne, non seulement à lui, mais aussi aux autres. C'est que nous autres, nous pouvons, par la grâce, compter sur cette couronne qui nous attend. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cela. Nous te prions pour le témoignage de chacun. Que tu nous aides, Seigneur, malgré toutes sortes d'enseignements qui est dans notre société, mais que nous te restions fidèles. Nous te confions notre camp biblique qui aura lieu en Belgique. Seigneur, que tu nous aides. Nous prions pour l'équipe locale, que tu la soutiennes dans tous les domaines. Et pour tous les frères et toutes les sœurs qui se préparent pour aller, Seigneur, que tu les soutiennes également dans leur santé et dans leur porte-monnaie. Bien-aimé, notre Seigneur, toi qui nous as aimés, nous nous confions en toi. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Merci, Papa José, pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour l'amour que vous avez pour les Écritures et que le Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu, le Père de notre Sauveur, Jésus, nous garde fidèles à lui, fidèles à son Fils, fidèles à les servir pour que nous héritons cette couronne que nous sommes en train d'attendre. Amen.
Amen. Amen.